France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est l'histoire d'un bateau pris sous le feu pendant 20 longues minutes, le 24 août 2025, à 70 km au nord de Tripoli, en Libye. C'est le fameux navire humanitaire de SOS Méditerranée, l'Océan Viking, qui sauve chaque année des milliers de gens traversant la Méditerranée. Pour comprendre ce qu'il s'est passé pendant ces 20 minutes, il faut savoir une ou deux choses. La première, c'est que depuis 2018, l'Union européenne s'est mise à sous-traiter à la Libye la gestion des mouvements migratoires en Méditerranée centrale. En grande partie en tout cas. En gros, et vite dit, on charge la Libye d'empêcher les personnes migrantes d'arriver chez nous. Ça s'appelle externaliser les frontières. Pour cela, l'UE a financé la création et l'extension d'une zone de recherche et de secours libyenne et elle a contribué à la formation, l'équipement et l'armement des gardes-côtes libyens. Une grande partie du job de ces gardes-côtes, c'est donc d'intercepter les embarcations et de les renvoyer vers la Libye avant qu'elles n'atteignent des eaux internationales ou leur transfert vers l'Europe est contraint par le droit humanitaire. Ça, c'est le contexte. Mais le problème, c'est que ces gardes-côtes libyens ne sont pas vraiment connus pour leur probité ni leur méthode douce. Ils sont liés à des milices et bien connus pour leurs abus, certains très graves. Pour accomplir leur boulot ou ce qu'ils supposent leur mission, pour repousser les bateaux de migrants ou les bateaux humanitaires, ils sont donc prêts à aller très loin, comme on va l'entendre. Ceci étant posé, je précise que lorsque l'Océan Viking est attaqué, il se trouve bien dans les eaux internationales. Un reportage de Fabienne Lomonier.
Je m'appelle John, je suis Digital Communication Coordinator pour SOS Méditerranée. C'est du marketing de communication pour faire de l'acquisition et de l'engagement auprès du grand public. Un an après mon arrivée chez SOS Méditerranée, j'ai été envoyé sur le bateau pour faire cette visite terrain. Donc c'était ma première fois sur le bateau. L'objectif était de me rendre compte de ce que représente la mission, les personnes qui sont sur la mission, de connaître exactement les métiers de chacun, de connaître le sauvetage, comme aussi la vie sur le bateau.
Libya, Libya, my destination is Tripoli, Tripoli, Libya.
J'ai embarqué du coup le 24 août 2025 pour ma première mission sur l'Ocean Viking. Alors on part de Syracuse, on va vers les zones de sauvetage entre Tripoli et Misrata, donc on fait des allers-retours dans cette zone-là. Donc on était en zone depuis 2 jours, et puis en milieu de nuit on reçoit des appels Mayday, et donc on va vers ces lieux où il y a des gens qui sont en détresse. On les retrouve, on sauve 47 personnes, 47 Soudanais, et c'était que des hommes en bas âge, vraiment très jeunes. Et donc le sauvetage, il se fait en 30 minutes, tout est très carré. On leur demande de quitter les bateaux boués, tous dans un état de stress, dans un état de panique. Une fois qu'ils embarquent sur le bateau, c'est l'un après l'autre, ils montent une échelle, on enlève les gilets de sauvetage, on leur donne un kit pour manger, on leur fait un discours d'introduction pour leur exprimer où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'on va, et ce qui va se passer dans les prochains jours. Et donc, on se retrouve à être la première étape où ils vont avoir l'opportunité de parler avec quelqu'un de l'équipage. Et en fait, c'est très fort, émotionnellement parlant, de voir leur réaction, le moment où ils commencent à comprendre qu'ils sont sauvés, qu'on ne retourne pas en Libye. Et ça, dans leurs yeux, c'est très, très impressionnant. Et puis, arrive le lendemain matin, on reçoit un nouvel appel en détresse, on reçoit l'autorisation d'y aller, et on va vers ce cas en détresse. Pareil, ils viennent tous l'un après l'autre, ils sont 40. De nouveau, c'est des Soudanais. Et donc, on sauve ces 40 personnes en plus, et on se retrouve avec 87 personnes sur le bateau. Pendant qu'on est en train de faire ces sauvetages, on reçoit un appel radio de nouveau, l'information qu'on part vers un troisième cas en détresse.
Okay,
Je m'appelle Lucille, j'ai 35 ans. Je suis responsable de communication pour SOS Méditerranée. C'est-à-dire que quand j'embarque à bord du navire de recherche et sauvetage, l'Ocean Viking, mon travail c'est de faire en sorte qu'on documente ce qu'il se passe pendant les opérations, la situation humanitaire. En fait, faire en sorte que ce qu'on ne voit pas en haute mer puisse être mis en lumière et qu'on ne puisse pas dire qu'on ne savait pas. On se trouve le 24 août dans la zone de recherche et sauvetage libyenne. Donc il y a 87 personnes qui sont à bord déjà. Et nous avons reçu une autre alerte, une embarcation en détresse. Et donc nous nous dirigeons vers cette embarcation. Il est à peu près 14h45 quand j'entends le chef de mission, Angelo, qui m'appelle pour venir à la passerelle. Là où se trouve donc le capitaine, le chef de mission. Et quand je monte avec le photographe, il me demande de documenter un bateau. Un patrouilleur qui arrive à toute vitesse dans notre direction. Donc je sors avec Max, le photographe. Je me trouve à côté de Filippo et Antoine et Tanguy, le chef des marins sauveteurs. Ils sont tous les trois à la jumelle. Et avec son téléobjectif, Max prend des images de ce patrouilleur. Et moi, je prends une paire de jumelles et je commence à regarder. Et en effet, je vois un patrouilleur qui arrive à toute vitesse. Et ce bateau semble être un Kourubia Class, donc c'est un patrouilleur libyen, qui a été donné en 2023 par l'Italie dans le cadre de la politique d'externalisation des frontières par l'Union européenne. Donc il faut savoir que l'Union européenne équipe et forme les gardes-côtes libyens. Leur objectif, c'est de réduire le départ des personnes qui souhaitent traverser la Méditerranée et donc de réduire les arrivées en Europe. Donc c'est un bateau gris qui ressemble à un bateau de la marine, et il va très vite. Il va tellement vite que le chef de mission, Angelo, décide d'activer le niveau de sécurité numéro 1, qui est le fait que tout le monde, les rescapés et l'équipage, doit être en sécurité à l'intérieur. Ça fait partie de nos opérations. Il y a souvent des milices et des gardes-côtes aux alentours. Donc, ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète outre mesure. Je me dis, ok, très bien, on va rentrer, on va continuer à documenter. Je l'ai fait souvent, je vais prendre des images. Donc, je rentre à l'intérieur. Je me mets sur le côté tribord, à l'avant du poste de commandement, parce que c'est là où on pilote le navire. Et donc, forcément, pour la visibilité, il y a plein de fenêtres. Donc, je me mets à tribord avec le photographe, qui prend des images, et moi je regarde le patrouilleur.
Yes, patrol vessel, for your information, we are in contact with Tripoli, your rescue coordinator center, and we are actually engaged in a search of a boat in distress. Over.
Il y a une communication radio qui va commencer entre les gardes-côtes libyens et le chef de mission. Le chef de mission est très calme et il explique que nous nous rendons sur une embarcation en détresse et que les autorités de Tripoli, donc le centre de coordination en Libye, est au courant. Ils parlent en arabe, les gardes-côtes libyens, donc je ne comprends pas ce qu'ils disent, mais la seule chose que je comprends de la réponse des gardes-côtes libyens, c'est 000, out, out, out. Donc 000, ça signifie le nord, et out, 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 ça veut dire dehors.
Yes, patrol vessel, but you understand that we are now looking for a distress case and we are in contact with your rescue coordination center. Okay, heading north.
Je sens qu'il y a une tension, donc je suis à la jumelle et puis le bateau se rapproche. Je commence à voir les personnes qui sont sur le patrouilleur. et je vois deux personnes qui sont armées et qui nous mettent en joue. Les armes, elles sont dirigées vers notre passerelle. Et du moment où je comprends cette information, j'ai même pas le temps, en fait, d'informer mes collègues à côté qu'on entend une balle qui arrive sur le côté tribord. Je pense qu'elle touche la porte. C'est pas très fort, c'est un petit poc comme ça. Et donc le chef de mission et le capitaine, je les entends, ils crient « Mettez-vous tous à terre ». On se met tous à terre et à ce moment-là, je suis accroupie. Et je me rappelle, mon premier sentiment, c'est mince, je suis à côté des fenêtres. Les balles, elles ont transpercé des fenêtres à la passerelle, elles ont transpercé des murs. Ils visaient clairement les gens dans le poste de commandement. Donc je pense que très rapidement, c'est un instinct de survie qui se met en place dans mon cerveau. Et la seule chose qui va me guider, ça va être le bruit des balles. Et donc là, mon seul objectif, c'est de me déplacer quand il n'y a pas de balles. Et à ce moment-là, ils se remettent à tirer et je comprends en fait que... Clairement, ils ont l'intention de tuer. Ça, c'est clair et net. Mais je ne sais pas pourquoi il y a autant de violence de la part des gardes-côtes libyens. Parce qu'en fait, on opère dans le droit maritime. On informe toujours les autorités à Tripoli. Je suppose que c'est pour nous intimider, pour nous empêcher d'être dans la zone de recherche et sauvetage libyenne. Angelo, le chef de mission, et le capitaine vont rester en contact avec les gardes-côtes libyens. Donc, quand on écoute les audios de la passerelle, parce que constamment nous enregistrons pendant nos opérations, donc on entend le médiateur culturel qui n'arrête pas de demander « s'il vous plaît, arrêtez de tirer, arrêtez de tirer ». On s'en va, il répète ça en boucle, et eux, les gardes-côtes libyens, vont nous menacer en disant que si on s'en va pas vite, ils vont venir tous nous tuer et nous terminer. Ils sont dans une haine verbale très 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 forte. À lire les audios, je me demande même s'ils n'avaient pas pris de la drogue en fait. On dirait qu'ils sont complètement fous, en fait.
Angelo, le chef des marins sauveteurs, va contacter également l'OTAN pour que nous puissions être escortés de la zone de recherche et sauvetage libyenne. Ils vont répondre en nous donnant les coordonnées d'un bateau de la marine italienne qui se trouve à proximité. Nous allons les contacter et ils ne vont jamais répondre. Personne n'est venu.
Mayday, mayday, this is ocean biking, we facing a shooting, they shoot at us. Mayday, 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 this is motor vessel ocean biking, we suffer a shotgun attack from a Libyan asset. We suffer a shotgun attack from a Libyan asset, we require assistance immediately, we require assistance immediately.
Donc j'attends que ça passe. Je me rappelle, je regarde le sol. J'ai qu'un objectif, c'est de sortir de cet endroit parce qu'il est en train d'être pris pour cible. La seule porte de sortie, c'est l'escalier. Et à côté de cet escalier se trouve Tanguy, qui est aussi accroupi. Tanguy, c'est la personne qui m'a formée au sauvetage en mer. C'est quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance. C'est le chef des marins sauveteurs. On se regarde. Il me fait un signe de m'approcher. Et en fait, comme je fais confiance, ça me donne de la force pour me lever. Donc je me lève et je cours. Pendant que je suis en train de descendre les escaliers, j'entends qu'ils sont en train de tirer. Il y a une vitre qui se casse. Max, lui, sort aussi quelques secondes plus tard. Et on dévale les escaliers. Et là, j'ai qu'une idée en tête. c'est d'alerter mes collègues. Je suis très inquiète pour eux, parce que eux, ils sont sur le pont, ils sont pas à l'intérieur, ils ont pas de structure aussi solide que les nôtres. Et on a quand même 87 personnes avec nous.
Donc nous, on entend des rafales. On a deux armes différentes qui sont en train de nous tirer dessus. On a probablement une AK-47 qui est en train de tirer en rafale. Et on a une arme plus puissante qui fait de gros impacts. Et c'est jamais arrivé qu'ils nous tirent dessus. Qu'on ait des impacts qui touchent le bateau, jamais. Et on a directement ordonné à tout le monde de rentrer dans le conteneur qu'on appelle l'abri pour les hommes. C'est des conteneurs en métal. Et on ferme tous les endroits qu'on peut, on met des bâches pour que, vu de l'extérieur, on ne puisse pas voir ce qui s'y passe. Les survivants autour de moi, ils sont tous couchés, pour certains couchés l'un sur l'autre. Il y a une tension, c'est palpable, je suis en alerte, je sais qu'il ne faut pas rigoler. Et donc on voit ce bateau des gardes-côtes libyens contourner le bateau par la droite, continuer à tirer, et là, on entend que ça perfore le métal. Et on entend les impacts qui explosent le matériel du bateau. On sait qu'ils sont en train de passer sur l'arrière du bateau et on est collé à l'arrière du bateau. Donc un tir d'AK-47, ça traverse le conteneur. À ce moment-là, moi je suis couché, donc j'ai les yeux vers le plafond et j'écoute. Et on entend à notre radio, notre coordinateur qui nous dit « Sécurité niveau 2 ». Ça signifie qu'on est supposé laisser les survivants, c'est la règle, et d'aller s'abriter dans les zones de cabine du bateau. Je suis toujours allongé. À ce moment-là, pour nous, il est impensable de quitter l'abri pour les hommes. On entend que ça nous canarde. Je sais que si je sors, je meurs. Et leurs bateaux Korubia Class sont des bateaux très rapides, très robustes, type militaire. Ils vont beaucoup plus vite que nous, donc ils ont le temps de faire des rondes autour du bateau. Et donc ils passent, ils font une première ronde, et on entend les tirs. On entend les impacts. Et moi, dans ma tête, c'est soit ils vont me toucher à travers la porte, soit ils vont monter sur le bateau. Et cette idée, elle me fait très très peur. Parce qu'on avait reçu de leur part l'information qu'on devait couper les machines, qu'ils allaient monter sur le bateau, qu'ils allaient tous nous tuer. Et quand cette information est arrivée, c'était une évidence, pas d'otage. Et donc je regarde le plafond et je me dis, ok, bon, bah, ils vont monter sur ce bateau, c'est sûr. Alors j'accepte que je vais mourir. Et là, je commence à regarder autour de moi, avec qui je vais mourir. Personne ne parle. En fait, beaucoup nous regardent.
The security level 3 and they wanted to inform and increase the security alert. Security alert. Everybody in the citadel.
Au troisième tour, on entend à la radio sécurité niveau 3. Sécurité niveau 3, c'est il faut se cacher dans ce qu'on appelle la citadelle, qui est un abri dans le bateau, super protégé. Avec des murs super épais et une porte blindée comme jamais j'en ai vu dans ma vie. Et on entend petit à petit nos collègues dire qu'ils sont dans la citadelle, on le dit à la radio. Et en fait, je me dis qu'on est tout seul. Les survivants, les collègues, on va y passer, quoi. C'est le groupe de la fin. Et c'est notre chef des marins sauveteurs qui a pris la radio et qui nous a dit « Les gens qui sont dans l'abri pour les hommes, courez. » Je m'étais dit que c'était la fin, j'entends ça, je me dis, en fait, j'ai une porte de sortie. Et en fait, la panique vient encore plus à ce moment-là. Là, mon cerveau a réagi, il faut que je parte, on doit partir. Et ça devient une évidence. Mon corps réagit, je me lève et je cours. Donc, on est moi et quatre autres filles de l'équipe médicale. Et donc, on sort l'un après l'autre, mais en courant. On a l'imposition de laisser les survivants. Alors je donne un dernier regard sur le conteneur et sur les survivants qui sont à l'intérieur. Et j'ai eu honte. Ouais.
All crew, if possible, if all crew is inside the accommodation, go to the citadel. Go to the citadel. I want that everybody are inside the citadel for the moment. Everybody inside the citadel, and I want to know if there are some injuries, if some people are missing.
On se retrouve devant la citadelle, mais à ce moment-là, je suis très angoissée parce que on n'a pas toute notre équipe qui est encore à l'intérieur avec nous. John n'est pas là, Caroline n'est pas là, Andrea n'est pas là. Il manque plein de personnes. On peut pas fermer la citadelle. On peut pas fermer cette porte. Il faut qu'on attende qu'ils viennent.
Okay. In the citadel.
Tout le monde va se cacher dans la citadelle. Alors on sort de ce conteneur et on a une petite minute de course. Mais à ce moment-là, une petite minute, c'est énorme. Une petite minute où les rayons du soleil me font comprendre que quand ils me touchent, c'est que je suis visible. Et donc je cours. Et arrivé vers les trois quarts du pont du bateau, là, je vois le bateau des gardes-côtes libyens. Et là, je suis tétanisé. Là, j'ai peur. Je me laisse tomber comme une feuille. Je m'écrase au sol. Les filles qui sont derrière moi s'écrasent au sol en me voyant m'écraser. Et on commence à ramper. Il y avait sur le sol de la suie de la cheminée, parce qu'on avait poussé le bateau dans ses retranchements. Donc je suis en train de ramper, et je deviens tout noir petit à petit à ramper dans cette suie, et à entendre toujours les impacts de balles. Et arrive un moment où, pendant qu'on est en train de ramper, on est à 20 mètres de l'entrée des cabines. Et je peux pas passer. Pourquoi ? Parce que si je passe cette petite partie, je suis mort. Je sais que je suis visible et que je vais me faire tuer. On est juste dans l'angle. Et de nouveau, j'ai une de mes collègues qui me dit de partir. Et elle me hurle dessus parce qu'en fait, on est tous en danger à ce moment-là. Et donc, j'essaie de courir le plus vite possible. Je pense que j'ai évité très très peu une balle. L'impact de la balle, c'était à hauteur de tête, c'était moi. Je l'ai évité de peu. Et donc, moi, arrivé dans cette citadelle, je réalise immédiatement quelque chose. J'ai laissé les 87 personnes à qui j'ai dit « Vous êtes sauvés » tout seul.
Donc, ils vont viser nos canaux sauvetage, ils vont viser nos antennes, ils vont viser vraiment du matériel très important pour nous pour faire des opérations de sauvetage. Et à un moment, ils vont s'arrêter de nous tirer dessus quand ils n'ont plus de munitions et ils s'en vont. Quand on est autorisé à sortir de la citadelle, je vais documenter avec Max, le photographe, à la demande du chef de mission et du capitaine, tous les endroits du bateau qui ont été endommagés. Ils ont détruit la passerelle, il y a plein d'impacts de balles dans les fenêtres, il y a un panneau sur notre pont qui a été peint par l'un des marins sauveteurs qui est écrit « You are safe », « Tu es en sécurité », et il a écrit ça dans plein de langues. C'est une peinture qu'on a mis devant l'entrée quand les rescapés arrivent sur notre bateau. C'est pour qu'ils se sentent justement en sécurité, pour qu'ils sentent qu'ici c'est un endroit sûr. À côté de ce tableau, il y a un impact de balle. Donc en fait, c'est ça, je pense, qui nous fait plus de mal, c'est que aujourd'hui, le sang viking n'est plus un endroit sûr.
Le moment où on sort de cette citadelle, qu'on apprend qu'ils ne sont plus visibles sur les radars, quand je suis retourné les voir avec la plus grande des hontes, j'ai été voir 87 personnes et j'ai été leur dire « Je suis désolé de ce que j'ai dû faire. » Ils m'ont dit merci. Enfin, genre, c'est incroyable. Pour moi, ces gens sont incroyables. Mais la honte, elle est restée des heures et des heures. Le lendemain matin, je devais m'occuper d'eux à 7h du matin. J'ai pas eu le cran d'aller les voir. Et j'ai un groupe de 4 personnes qui est venu vers moi, 4 survivants. Il y en a un avec qui j'avais déjà un très très bon contact qui m'a dit « John, lui il vient de me dire que c'est ta première fois sur le bateau. » Oui, c'est ma première fois, il a raison. Et il me dit « Mais c'est ta première fois sur le bateau et les Libyens ils tirent dessus. » Et moi je suis hyper gêné parce que j'ai dû les laisser. Et je remets les pendules à l'heure, genre « Non, on est tous sur le même bateau, on s'est tous fait tirer dessus. » « Oui, mais nous on a l'habitude, toi pas. »
J'ai vraiment envie de crier, je suis très en colère. Parce que tant que l'Union européenne finance des gardes-côtes libyens, dont on sait qu'ils sont en fait des criminels, des milices, des passeurs, dont on sait qu'ils attaquent des organisations humanitaires, dans un coin de ma tête, je savais que ça arriverait. Pourquoi est-ce qu'on continuerait à donner des moyens à des criminels de s'en prendre à des humanitaires? Et ce jour-là, je suis très très en colère. Parce qu'ils sont financés par mes dirigeants. Le lendemain, on apprend par notre responsable de plaidoyer qu'il y aura une conférence de presse à la Commission européenne pour adresser plusieurs sujets et que le cas de l'attaque de l'Ocean Viking va être adressé. En effet, on regarde cette conférence de presse en direct et il y a des journalistes qui vont poser la question au porte-parole de la Commission européenne: est-ce que vous êtes au courant et qu'est-ce qui va être fait pour répondre à cette attaque? Et là, on est sidérés parce que la réponse, c'est... aucune condamnation. En fait, rien n'est dit. C'est là que je prends conscience que vraiment, les vies en mer n'ont aucun prix au regard de nos dirigeants. Et encore aujourd'hui, on attend des réponses. Et je suis en colère parce que ce jour-là, personne n'est mort, certes, mais je me suis vraiment posé la question et je me la pose encore aujourd'hui. Si l'un d'entre nous serait mort, est-ce que ça changerait quelque chose ?
C'était Panique à bord de l'Océan Viking, un reportage de Fabienne Lomonier réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à l'association SOS Méditerranée, en particulier à John, Lucille, Caroline, Thérèse et Jérôme, à Valentin Rémy, l'Atapro des Pieds sur Terre, et à Mina Morel, notre stagiaire.
Come on, see you.